France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 17 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le projet de loi sécurité globale. Il arrive à l'Assemblée. Débat houleux en perspective entre partisans d'un renforcement des pouvoirs de surveillance et défenseurs des libertés. Gros plan dans ce journal sur l'article 24 qui est, on va le voir, vivement controversé. On en parlera à 8h20 avec la avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Patrice Spinozzi. Il est spécialiste des libertés publiques. Vous pourrez dialoguer avec lui. Le standard est ouvert et vous attend. Les autres titres, Agnès.
L'épidémie de Covid avec le témoignage du patron français du laboratoire américain Moderna. L'inquiétude des restaurateurs face à une réouverture de plus en plus lointaine. Et la Poste qui voit ses résultats s'envoler. La Hongrie et la Pologne bloquent le plan de relance européen pour ne pas avoir à répondre du respect des droits de l'homme. Énième évacuation ce matin d'un camp de migrants à Saint-Denis. Et puis si vous en avez assez du Petit Papa Noël chanté par Tino Rossi, un album dépoussière les classiques de fin d'année.
Et on termine avec votre invité ce matin à 7h50, Léa.
Oui, il se sent oublié, laissé pour compte de la crise sanitaire. Emmanuel Macron recevra tout à l'heure en visioconférence les acteurs du monde du sport professionnel et amateur, parmi eux le patron de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter.
1300 amendements à examiner. C'est dire si la proposition de loi sur la sécurité globale divise l'Assemblée. Le texte examiné à partir de cet après-midi vise à renforcer les moyens et la protection des policiers et gendarmes sur le terrain, avec donc un article 24 particulièrement décrié. Il prévoit de punir la diffusion dans un but malveillant d'images de fonctionnaires en opération. Journalistes et autres professionnels de l'image dénoncent une atteinte sans précédent à la liberté d'informer. Alexandra Hakoun.
Pour ne pas écoper d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, aucune image permettant d'identifier un policier ou un gendarme ne pourrait à l'avenir être diffusée ou alors floutée. Grave menace à la liberté d'informer ont récemment dénoncé les sociétés de journalistes d'une trentaine de médias, dont celle de France 2. Clément Le Goff en est le président.
D'abord, on ne pourra plus filmer des images en direct, ce sera impossible, on ne peut pas flouter en direct. Et puis même pour nos journaux, ça demande un temps fou de flouter les policiers et ça va devenir ingérable. Ce qu'on filme, c'est aussi des éléments de preuve, ça sert parfois aussi à l'ouverture d'enquête et donc c'est essentiel au fonctionnement démocratique.
Comme la vidéo de ce passage à tabac de manifestantes dans un Burger King en décembre 2018 qui a conduit à la mise en examen de 4 CRS pour violence volontaire. Séquence forte d'un pays qui se tient sage, le film Coup de poing de David Dufresne sur les violences policières sorti en septembre.
Est-ce qu'on aurait pu faire le film tel que la loi se dessine ? Non. Flouter, c'est enlever la brutalité, c'est enlever le rictus de l'homme qui tire au LBD. Et là, ce que le ministère de l'Intérieur veut imposer, c'est sa vision du monde. C'est de dire, quand c'est pas terrible, vous floutez. Non, c'est pas possible.
Le syndicat national des journalistes appelle à une mobilisation à proximité de l'Assemblée cet après-midi à 16h.
Faux, rétorque de son côté la députée La République En Marche, Alice Toureau, qui porte ce texte avec Jean-Michel Fauvergue.
Il ne s'agit en aucun cas d'empêcher les journalistes de travailler, ni de porter atteinte au droit d'informer des citoyens. Que les choses soient très claires sur ce point, les policiers et les gendarmes travaillent à visage découvert. La seule chose qui est sanctionnée et qui est visée, c'est la mise en pâture de nos forces de l'ordre sur les réseaux sociaux en particulier ou sur des sites internet spécialisés quand il y a des appels aux représailles ou à la haine contre eux. Et donc il n'y aura pas demain, plus qu'aujourd'hui, une obligation de floutage quand on filme des policiers ou des gendarmes qui sont en train de travailler.
Un propos recueilli par Stéphane Père, le texte prévoit également la création d'une police municipale à Paris, l'utilisation de drones pour de la vidéo-verbalisation et l'interdiction de la vente de mortiers d'artifice.
Il est 7h04, Agnès, il est peut-être l'homme par qui le vaccin contre le Covid va arriver.
Stéphane Bancel est le PDG français du laboratoire américain Moderna, qui a donc annoncé hier être sur le point de commercialiser un vaccin efficace à près de 95%. Les premiers vaccins sont annoncés avant la fin de l'année aux États-Unis, début 2021 en Europe. Une réussite due, selon Stéphane Bancel, à l'investissement financier du gouvernement américain dont vont bénéficier les Européens.
Le gouvernement américain a payé toutes les études cliniques et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Parce que généralement, ce que vous faites, c'est avant de passer d'une étape, on va dire de phase 1 à une étape de phase 2, vous attendez de savoir le niveau d'anticorps. Mais ça prend des mois. Et une fois que vous avez vos anticorps, si ça marche, vous allez commencer à fabriquer le produit pour la phase 2. Et tout ça, ça prend encore des mois. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre cas-là? On a commencé à fabriquer les flacons pour la phase 2 pendant que la phase 1 démarrait. La phase 3, elle va finir par coûter sans doute 800 millions de dollars, 100% financé par le gouvernement américain. Et quand on va déposer le dossier donc en Europe pour protéger la population française, ça va être en fait un cadeau du gouvernement américain. Il n'y en aura pas eu un euro de support pour les études cliniques des pays européens, pas un euro.
Stéphane Bancel, interrogé par Véronique Julia. En attendant ce vaccin, les chiffres publiés hier soir par Santé publique France montrent un ralentissement de l'épidémie avec 9400 nouveaux cas en 24 heures, chiffre le plus faible depuis plus d'un mois. Parallèlement, le nombre de patients hospitalisés a battu un nouveau record, s'établissant hier à 33 466. Le gouvernement reste donc très prudent. Certains commerces devraient rouvrir le 1er décembre et un décret va être publié dans les tout prochains jours pour autoriser la vente de sapins de Noël. Les perspectives sont beaucoup plus sombres pour les patrons de bars et des restaurants qui pourraient rester fermés jusqu'au début de l'année prochaine. Philippe Lefebvre.
Pour le moment, pas de confirmation officielle. Celle-ci pourrait intervenir lors de la nouvelle intervention du Premier ministre prévue en début de semaine prochaine, mais effectivement lors d'une réunion confidentielle qui s'est tenue hier en fin de matinée à Bercy entre les représentants des restaurateurs et Bruno Le Maire, et où il était question notamment de nouvelles mesures pour accompagner le secteur, eh bien le ministre de l'économie aurait laissé entendre qu'il n'était pas optimiste pour la fin de l'année, sans toutefois, confirme-t-on à Bercy, donner la moindre date de réouverture possible. Mais pour les professionnels, cela veut clairement dire que les restaurants ne pourront pas ouvrir avant la fin de l'année, que leur sort est déjà scellé, et c'est pour les restaurateurs le pire des scénarios, car les fêtes de fin d'année sont l'occasion de réaliser un chiffre d'affaires conséquent, que ce soit pour les réveillons ou dans les stations de sport d'hiver qui pourraient ouvrir, mais avec des restaurants fermés, une hypothèse qui, si elle se confirme, pourrait provoquer la colère des restaurateurs qui s'estiment être les sacrifiés de la crise sanitaire.
Une crise qui pourrait cette fois se transformer en opportunité pour La Poste, qui vient de signer un partenariat avec Picard, le numéro 1 des surgelés en France. La Poste qui engrange, Laurent Kramer, des résultats inespérés en cette fin d'année.
Grâce au service de La Poste et de sa filiale Chronofresh, le numéro 1 des surgelés en France est désormais capable de faire livrer ses produits sur l'ensemble du territoire. Avec la crise sanitaire et ce boom de la demande pour la livraison à domicile, La Poste s'apprête à livrer pour cette fin d'année 4 millions de colis par jour, un record inenvisagé jusqu'ici, explique Xavier Mallet, directeur général de Colissimo.
Cette croissance de 30%, c'est ce que nous avons préparé pour cette fin d'année. Et évidemment, le reconfinement a accéléré encore cette tendance. Et donc, on est sur des volumes encore plus forts. Il y a de plus en plus de commerçants physiques qui ouvrent des canaux digitaux. Donc ça ne fait qu'augmenter, on va dire, le besoin de livraison. C'est une chance pour nous, pour justement notre transformation et aller vers plus de colis, puisqu'on nous allons avoir moins de lettres. Donc ça libère du temps pour faire plus de colis.
Et pour faire face à cette surcharge et avalanche de colis à livrer, La Poste embauche 9000 CDD en renfort des 100 000 postiers en cette fin d'année et se prépare à doubler le nombre de ses livraisons de colis sur les 10 prochaines années.
Et puis selon l'UFC Que Choisir, les assureurs auto auraient économisé plus de 2 milliards d'euros, voitures et motos restant au garage en ce moment. L'association leur demande donc de rembourser. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h08, la Hongrie et la Pologne bloquent, Agnès, le plan de relance européen.
Un compromis semblait pourtant avoir été trouvé au forceps cet été après un sommet marathon de 4 jours. Mais hier, Varsovie et Budapest ont donc refusé de valider ce plan à 750 millions d'euros. Pierre Benazé.
Le blocage budgétaire de la Hongrie et de la Pologne n'est pas vraiment une surprise, mais il reste en travers de la gorge des négociateurs. Ils avaient triomphalement annoncé un compromis mardi dernier après de longues tractations. Ce compromis est maintenant menacé, car la Pologne et la Hongrie rejettent l'ensemble du paquet financier, à la fois le plan de relance et le budget commun. Le veto de la Pologne et de la Hongrie est toujours lié au rejet par les deux pays du lien avec l'état de droit. La conditionnalité avait pourtant été l'objet d'un accord début novembre. Privation de fonds européens en cas de non-respect de l'indépendance de la justice ou de frein aux libertés de la presse ou de l'enseignement, par exemple. Le président du Parlement européen, David Sassoli, s'est donc félicité un peu vite mardi dernier quand il affirmait qu'il ne serait pas possible de revenir en arrière. Selon les gouvernements polonais et hongrois, cette conditionnalité est directement dirigée contre eux et contre l'Europe centrale en général. Reste donc maintenant à voir si ces deux pays sont prêts à provoquer une grave crise ouverte en s'arc-boutant sur leur veto. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Joe Biden baptise lui son plan de relance Build Back Better, reconstruire mieux. Il promet ainsi de créer 3 millions d'emplois et un salaire minimum à $15 de l'heure. Retour en France avec un département en grève aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de l'Hexagone. Enseignants, infirmières scolaires et agents territoriaux notamment exigent un plan de rattrapage pour les services publics. Un département où s'installent aussi régulièrement des campements sauvages. Une nouvelle opération a débuté il y a une heure à Saint-Denis pour déloger 2500 réfugiés, exilés ou demandeurs d'asile installés dans des conditions indignes sous l'autoroute à Béatrice Duguay.
Comme d'habitude, cette expulsion ne va rien résoudre, se désolent les responsables associatifs comme Maël de Marcellus d'Utopia 56.
Il y aura une reformation d'un campement quelque part autour de Paris, c'est un cycle sans fin en fait.
Malgré tout, c'est une forme de répit, un toit, des sanitaires, de la nourriture pour des personnes qui survivent dans des conditions lamentables.
Vivre sous tente, c'est un projet de vie pour personne. Et la plupart, en fait, attendent les bus, justement, parce que déjà, les gymnases, c'est toujours mieux qu'un campement de rue. Et ils espèrent après avoir accès à un vrai hébergement.
Espoir souvent suivi de désillusion. Les situations administratives sont certes réexaminées, mais près de la moitié des évacués retrouvent la rue d'ici un mois. Nous faisons ce que nous pouvons, plaide la mairie de Saint-Denis. Oriane Filliol, adjointe chargée des solidarités, réclame action protectrice de l'État et solidarité des autres communes.
On est bien d'accord que là, dans cette situation du campement de l'Écluse, n'est pas tenable, mais quelle que soit la taille des camps, c'est pas possible d'accueillir les personnes dans ces conditions-là. Donc on comprend ce que disent les associations, on partage. Il y a des risques qu'il y ait de nouveaux des campements qui s'installent, que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs. Mais en réalité, les autres villes qui n'ont pas ces campements chez elles devraient prendre part aux discussions autour de ce souci, puisqu'elles sont concernées aussi.
2500 personnes, c'est beaucoup pour une ville, mais peu pour un pays ou même une région. Or, disent les associations, ces évacuations récurrentes coûtent cher et des lieux vacants, il y en a. Beaucoup.
Béatrice Duguay. Enfin, un album pour vous réconcilier avec les chants de Noël trop entendus ou trop ringards. Le pianiste canadien Gonzalez propose une nouvelle version très réussie des classiques de Noël. Mathieu Culeron.
Tradition souvent soporifique, les disques de Noël représentent la plupart du temps une souffrance plus qu'une réjouissance. Non seulement Gonzalez réussit l'exercice, mais il parvient à revisiter des chansons éculées pour en faire des titres originaux.
Je me suis dit, on rigole tellement de ces morceaux, ce sont des morceaux un peu kitsch. Et je me suis dit, si je joue ces morceaux très respectueusement, on peut enlever, on peut dénuer le morceau de toutes ces associations kitsch et entendre que c'est un morceau joli. Et le piano, il a ce pouvoir. Et ce qui est sorti, c'est l'envie de faire un album de Noël, un autre type d'album de Noël.
Outre les reprises méconnaissables de Wham et de Mariah Carey, Gonzalez agrémente son disque de titres originaux, dont cette très belle chanson avec Feist, sa complice de toujours.
I'll lay the branches on the floor, arrange from big to small.
Every Chilly Christmas, un disque qui sonne comme une blague de Gonzalez et qui pourrait bien être l'un des plus beaux disques de Noël jamais produits.
Merci Agnès. C'était le journal d'Agnès Soubiran. On vous offrira l'album